Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Plus de 20 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Troisième journée de suite. Nous irons en Allemagne où des restrictions vont cibler les non-vaccinés. Emmanuel Macron défend son bilan devant le Congrès des maires de France. À 5 mois de la présidentielle, le président montre de l'écoute pour les élus locaux. Un élève sur 10 victime de harcèlement scolaire. De nouvelles mesures ont été annoncées pour lutter contre ce fléau. Détail à suivre. La bataille des licences de pêche est-elle perdue d'avance face à Londres? La promesse d'indemniser les pêcheurs peut le laisser penser. On va y revenir. Les chats et les chiens ne sont pas des choses qu'on achète sur un coup de tête. Traduction dans les actes, vous n'en verrez bientôt plus dans les animaleries. La météo de ce vendredi, les températures ne bougent pas et le soleil revient, nous confirmera Marlène Duret. L'invité éco à 22h20, on s'intéressera au Duo Day pour l'emploi des personnes handicapées et on découvrira les unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
Plus de 20 000 nouveaux cas de Covid, donc en l'espace de 24 heures, troisième journée consécutive. Les derniers chiffres de Santé publique France ne laissent pas de place au doute. Nous entrons bien dans un nouveau pic épidémique. Nous allons tout de suite en Allemagne, qui renforce ce soir son dispositif. Quelques jours après le confinement des non-vaccinés en Autriche, eh bien Angela Merkel décide à son tour de cibler la population réticente au vaccin. Les non-vaccinés allemands ne pourront plus aller au restaurant ou en concert. On écoute la chancelière sortante, Angela Merkel.
Notre unité de mesure, c'est l'indice d'hospitalisation. Quand il est supérieur à 3 malades hospitalisés pour 100 000 habitants, alors la règle des 2G doit être appliquée dans toute la région. C'est-à-dire qu'il faut être vacciné ou testé pour participer à des événements publics. Vacciné ou guéri, pardon.
Voilà, la chancelière allemande Angela Merkel, je vous rappelle donc ce chiffre communiqué ce soir par Santé publique France, plus de 20 000 contaminations au Covid en France pour ces dernières 24 heures, 57 décès du virus à l'hôpital et 301 nouvelles hospitalisations précisément. De la même façon qu'il multiplie les déplacements sur le terrain, Emmanuel Macron est aux petits soins avec les élus locaux. À 5 mois de la présidentielle, il était hors de question pour le chef de l'État de sécher le congrès des maires. Vous avez écouté le président clôturer aujourd'hui ce rendez-vous, Jacques Serret. Le discours d'Emmanuel Macron était un savant mélange d'offensive et de séduction.
Oui, en 2017, juste après son élection, c'est sous les sifflets qu'il était accueilli. Cette fois, c'est par des applaudissements. À la tribune, Emmanuel Macron ne se prive pas d'y faire allusion.
Il se peut qu'il y ait eu des malentendus au début. Il se peut d'ailleurs qu'il y ait eu des préjugés. J'assume ne pas avoir été maire. C'est ainsi, je ne suis d'ailleurs pas le seul président de la Ve République à ne pas avoir été maire. J'ai compris qu'on honorait beaucoup le général de Gaulle ces derniers temps, se peut qu'il ait eu le même défaut.
Rire dans la salle, c'est alors le début de l'opération séduction du président, pas encore candidat. Face à ses maires, il loue leur rôle essentiel durant la pandémie.
Partout en France, vous avez pris des initiatives, été aux avant-postes, de manière très concrète. Chaque jour, chaque nuit, chaque week-end.
Des remerciements et puis la promesse de fermeté alors que les élus locaux sont de plus en plus victimes de violences.
La réaction doit être immédiate et la sanction décisive. Ça n'est pas de la solidarité, c'est du devoir. C'est la République dont nous parlons.
Un discours de plus d'une heure conclut par ces mots.
Il y a dans le beau mot de maire l'anagramme du verbe aimer. Parce qu'au-delà de tout ce que vous faites, il y a un engagement qui est de cœur et d'âme.
Emmanuel Macron ne se cache presque plus d'être en campagne.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Un autre rendez-vous que le chef de l'État ne souhaitait pas manquer et pour lequel d'ailleurs Brigitte Macron elle-même est très impliquée. À l'occasion de cette journée de lutte contre le harcèlement scolaire, Emmanuel Macron a annoncé des mesures pour endiguer ce fléau. On va les découvrir dans un instant, mais d'abord mettons une voix sur les statistiques anonymes. 1 élève sur 10 harcelé à l'école. Une voix et une histoire. Vous allez entendre ce que signifie le harcèlement dans cet échange entre le chef de l'État et une jeune fille. La vidéo a été mise en ligne aujourd'hui.
Ils m'ont tapé, ils m'ont filmé, ils m'ont insulté. Je suis portée plainte, mais il n'y a pas eu de suite. J'ai essayé de parler, mais ils m'ont pas cru. Ils ont dit que j'étais une menteuse. Après, je me suis fait pousser d'escalier. J'ai crié pour qu'une personne vienne m'aider. Ils ont rien fait.
Et d'autres l'ont vu, ça ?
Oui, mais ils n'ont pas voulu témoigner.
Et donc, ça continue tout le temps ?
Oui.
Et là, au moment où on se parle, tes parents, ils ont fait d'autres démarches ?
Je me suis fait harceler parce que mon père, il voulait plus de moi parce que j'étais en surpoids. Il m'avait dit que j'étais la honte de la famille. Donc, il voulait plus de moi. Et puis après, à cause de ça, bah, plusieurs personnes de mon collège se sont moquées de moi. Sur mon poids, après, sur mon famille. Ils ont dit que personne ne voulait de moi.
C'est pas toi qui es dans l'erreur. Mais ta mère, elle est retournée voir à l'école.
Il n'y a rien qui s'est passé. Le directeur, il ne veut pas la virer ni rien. Il veut juste la changer de classe.
Mais il y en a combien au total qui sont sur toi, là, aujourd'hui?
À peu près toute ma classe. Et toute classe.
On va t'aider. C'est hyper courageux. Non, c'est vrai. Tu rejettes pas quelqu'un pour son apparence physique ou pour ce qu'il est, ça n'existe pas. Et donc c'est de la bêtise. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des adultes pour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font est fou. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que toi, tu es victime de ça. Il faut que tu tiennes et t'en sortiras plus forte.
Voilà, on entend bien sûr la grande souffrance de cette jeune fille dans cet échange avec Emmanuel Macron. Virginie Riva, quelles sont donc les mesures anti-harcèlement annoncées par le président ?
Première mesure, un renforcement de la loi sur le contrôle parental pour installer par défaut les logiciels de contrôle sur les téléphones, les ordinateurs, les tablettes utilisées par la famille. Annonce également d'une nouvelle application pour les victimes pour les aider à dénoncer les faits. Il existe déjà le numéro 3020 et le 3018 pour le cyberharcèlement. Là est lancée l'application 3018. Il sera possible d'envoyer une capture d'écran si vous où votre enfant est harcelé en ligne. Pour mieux sensibiliser les élèves, une expérimentation sera également lancée à la rentrée 2022 dès la 6e. Objectif, délivrer une certification au numérique pour que les élèves soient formés aux dangers des réseaux sociaux. Enfin, le président veut renforcer les structures où l'on recueille la parole des victimes. Maison des adolescents, point d'accueil et coup de jeune. Une deuxième maison de Marion, structure de lutte contre le harcèlement, a d'ailleurs été inaugurée cet après-midi par Jean-Michel Blanquer dans le 13e arrondissement de Paris.
Virginie Riva, deux numéros d'appel pour vous protéger et vous défendre. Non au harcèlement, composé le 3020 et le 3018 si vous êtes victime ou témoin de violences sur les réseaux sociaux. C'est un vent de défaite qui souffle pour les pêcheurs français dans la Manche, comme si la France anticipait déjà un échec des négociations avec Londres dans la crise des licences de pêche. Brigitte Girardin, la ministre de la Mer, prévoit un plan de sortie de flotte, autrement dit, les bateaux sans licence, eh bien, le resteront, mais ils auront droit à une indemnisation de l'État. Charles Guyard, vous êtes à Saint-Malo pour Europe 1. Ce n'est évidemment pas ce qu'attendent les pêcheurs français. Charles, ils veulent juste continuer de pêcher, bien sûr, dans les eaux britanniques.
Oui, c'est un tableau peu optimiste qu'a dressé Annick Girardin ce matin en ouverture des Assises de la mer dans le Finistère. Baisse des quotas et surtout toujours ces licences accordées au compte-gouttes par Londres aux pêcheurs français pour prélever dans les eaux britanniques. Il en manque 54, selon la ministre. Mais la principale annonce, c'est cette enveloppe de 40 à 60 millions d'euros prête à être débloquée pour financer un vaste plan de sortie de flotte. Autrement dit, ceux qui accepteront de renoncer toucheront des compensations. Pour Loïc Escoffier, armateur à Saint-Malo, c'est un vrai renoncement, alors que la France était présentée comme la grande gagnante des accords du Brexit il y a un an.
On nous dit tout va bien, vous inquiétez pas, vous pouvez vous projeter. Et là, comme ça, là, en un claquement de doigts, on nous dit ah ben non, en final, on s'est trompé, vous êtes concerné par le Brexit et puis vous êtes dehors. Là déjà, on a reçu des documents qui stipulent des changements de réglementation sur les bulots, sans nous concerter. Et puis qui nous dit que l'année prochaine, ils ne vont pas nous dire bon bah c'est terminé, c'est-à-dire que c'est reconductible tous les ans. Donc c'est en fait, ils veulent plus de nous du tout.
Une exclusion des eaux britanniques pour Loïc Escoffier et son armement de 3 bateaux, c'est 80% de son chiffre d'affaires qui disparaît. Conséquence, lui et ses 30 à 35 marins embarqués se retrouveraient alors contraints de rester à quai définitivement.
Merci Charles Guyard. La ministre Brigitte Girardin assure ce soir que les négociations se poursuivent pour obtenir du Royaume-Uni toutes les licences de pêche demandées par la France. Premier feu vert des députés au projet de loi de réparation du préjudice subi par les harkis. Avec cette loi, l'exécutif va plus loin que ses prédécesseurs. Traduction d'un récent discours d'Emmanuel Macron qui reconnaît une dette envers les harkis. Allons maintenant au procès des attentats du 13 novembre. La cour d'assises spéciale poursuit un travail minutieux pour comprendre les rouages de ces attaques terroristes. Elle a tenté aujourd'hui de comprendre qui les a ordonnés et comment. À la barre, des enquêteurs de la DGSI ont détaillé le fonctionnement du cellule du groupe État islamique, cellule terroriste chargée d'organiser des attentats à l'étranger, Gladys Laffitte.
Oui, une cellule créée courant 2014, une structure secrète que les enquêteurs ont mis longtemps à décrypter. Elle était dirigée par de hauts cadres de l'État islamique, dont un Belge, accusé au procès mais présumé mort. Elle disposait d'un budget propre, de moyens supérieurs pour organiser les actions commises en Europe notamment. Bref, une véritable industrie des attentats projetés, dont l'un des exemples les plus aboutis est le 13 novembre, a expliqué un enquêteur. Les membres de cette cellule sont des combattants aguerris, certains viennent du bataillon des forces spéciales, d'autres de groupes groupes particulièrement cruels, comme Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats. La Cour a pu voir le quotidien barbare, je cite, de son équipe en Syrie, comme sur cette vidéo où ces hommes tractent des cadavres derrière un pick-up en rigolant. Des djihadistes qui ont ensuite toute latitude pour décider des cibles une fois sur le terrain. Quand ils quittent la Syrie, je pense qu'ils ne savent pas qu'ils vont frapper des terrasses ou le Bataclan et que ce sera le 13 novembre, a expliqué l'enquêteur. Ce sont eux qui proposent et leur chef valide leur projet mortifère depuis la Syrie.
Gladys Laffitte à la Cour d'assises spéciale de Paris. Joe Biden envisage de boycotter les JO de Pékin. Le président des États-Unis parle d'une possibilité de boycott diplomatique de ces Jeux d'hiver prévus en février pour protester contre les violations des droits de l'homme en Chine.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
On s'est tous attendris devant ces petits chats, ces petits chiens dans les vitrines des animaleries. Parfois aussi, on s'est posé des questions. Eh bien, le Parlement vient d'apporter une réponse. Cette image appartiendra bientôt au passé. Après un vote quasi unanime au Sénat, la loi contre la maltraitance animale est définitivement adoptée. Sa mesure phare interviendra en 2024, Louise Salé. Ce sera donc la fin de la vente de chats et de chiens dans les animaleries.
Oui, alors les raisons de cette interdiction, des bêtes exposées en vitrine, ce qui peut susciter un achat compulsif et favoriser les abandons, et des soupçons de maltraitance dans ces établissements, des accusations fausses pour Virginie Muti, gérante d'une animalerie parisienne. Elle s'apprête à mettre la clé sous la porte.
C'est tout simplement ce qu'on appelle un drame. C'est une véritable torture. Quand on a consacré 40 ans de sa vie, investi, être tiré par les services vétérinaires pour améliorer notre profession et contribuer justement à ce qu'on soit des professionnels irréprochables, et que tout d'un coup, face à un couteau dans le dos, c'est assez terrible.
La nouvelle loi met en place d'autres interdictions, plus progressives, afin de laisser le temps aux professionnels de se reconvertir. Les animaux sauvages ne feront plus partie des spectacles de cirque d'ici 2 ans et leur détention deviendra illégale dans 7 ans. Pour les dauphins et les orques dans les parcs aquatiques, le délai est plus court. Ils devront définitivement quitter les bassins d'ici 5 ans.
Louise Salé. Bercy mobilisée pour sauver Ascoval dans le Nord. Selon les syndicats, 40% de l'activité de cette aciérie pourrait être temporairement délocalisée en Allemagne pour des raisons de coût de l'énergie. Une réunion se tient ce soir à Bercy avec le sidérurgiste allemand Sarstahl, le nouveau propriétaire du site, avec cet objectif, maintenir le maximum de la production en France. Voilà qui ressemble à un bon coup de main pour votre budget. Si vous avez ou si vous demandez un emprunt immobilier, eh bien, une proposition de loi a été votée ce soir à l'unanimité en commission à l'Assemblée, ce qui est un bon signe pour une adoption définitive à la fin du mois. Ce texte permet en fait aux emprunteurs de changer d'assurance de prêt à tout moment. L'idée derrière tout cela, Carole Ferry, c'est bien sûr de pouvoir faire des économies.
Oui, alors l'assurance emprunteur, vous savez, c'est cette assurance qui est obligatoire quand vous faites un prêt immobilier. La plupart du temps, les clients prennent l'assurance de leur banque parce que c'est plus simple, mais pas forcément plus économique. Et une fois que c'est signé, eh bien, c'est un peu compliqué de changer. Il faut prévenir 2 mois avant la date anniversaire du contrat. Ce que propose cette loi, c'est que les clients puissent changer beaucoup plus facilement afin de dynamiser la concurrence dans le secteur. Et ce changement peut clairement être payant en termes d'économie, selon la porte-parole de Meilleur Taux, Maëlle Bernier.
Ben, si vous prenez un prêt sur 250 000 euros avec un taux de 1,10 sur 20 ans, une assurance, vous pouvez passer par exemple, dans un cas vous êtes à 83 euros par mois, dans l'autre cas vous êtes à 40, pour la même assurance, à garantie équivalente, c'est très important de le dire. Donc dans un cas l'assurance va vous coûter au total 20 000 euros et dans l'autre cas seulement 9 500 euros. Donc c'est clairement des euros tous les mois rendus aux Français.
Alors bien sûr les banques sont vent debout contre cette proposition qui doit être votée jeudi prochain au Parlement. C'est souvent avec cette assurance qu'elles font le plus de marge sur leurs crédits immobiliers. Mais elles ont le temps de se retourner puisque si cette proposition est adoptée, elle entrera en vigueur dans un an seulement.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. L'hôtellerie-restauration sort les grands moyens pour attirer de nouveaux bras. Les organisations patronales proposent des augmentations de 10,5% en moyenne dans les négociations salariales en cours avec les syndicats. Vivre en pleine ville, mais sans aucune connexion, sans aucun portable ni connexion Wi-Fi, eh bien c'est ce qui est arrivé à tout un quartier de Clermont-Ferrand. 2 opérateurs mobiles ont été alertés par de mystérieuses interférences sur leur réseau. L'Agence nationale des fréquences a mené l'enquête. Elle a découvert qu'un habitant utilisait un brouilleur d'ondes, transformant ainsi tout son quartier en zone blanche. Caroline Baudry, la technique utilisée par les enquêteurs pour le débusquer est digne d'un film d'espionnage.
Oui, car cela s'apparente à chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est ce que raconte l'agence. 24 antennes mobiles, c'est énorme, sont alors brouillées. Les réseaux 3G, 4G, Wi-Fi et GPS de la ville sont perturbés. Les enquêteurs prennent la route grâce à l'appareil de radio-repérage fixé sur le toit de leur véhicule. Ils parviennent à localiser le quartier puis l'immeuble où se trouve le brouilleur, avant d'être rejoints par 6 policiers de la BRI qui entrent encagoulés, munis de fusils d'assaut et de quoi faire sauter la porte de l'appartement. Antenne directive à la main, l'équipe découvre dans un tiroir du meuble de télévision le boîtier gris. Son propriétaire, alors absent, on s'explique plus tard, il l'avait installé pour empêcher les voisins de se connecter sur sa box. La justification laisse pensif les enquêteurs. Ces brouilleurs font partie de la panoplie des voleurs, selon l'agence des fréquences, pour neutraliser les alarmes ou déverrouiller les voitures. Leur utilisation est punie jusqu'à 6 mois de prison et 30 000 euros d'amende. Il faut savoir que cet équipement peut perturber des avions à 2000 mètres d'altitude.
Merci Caroline, on dépasse effectivement la simple idée de protéger sa box Wi-Fi d'une intrusion. Deux boules de poils d'un côté, une forêt de caméras de l'autre. Les deux bébés pandas du zoo de Beauval ont été baptisés. Alors entraînez-vous un petit peu d'abord et puis appelez-les Yuan Doudou et Juan Lili. Cette fois, c'est pour de vrai Yasmina Katou, ce sont leurs prénoms définitifs.
Oui, parce que jusqu'alors, les deux bébés pandas avaient des surnoms, Fleurs de coton et Petite Neige. Comme le veut la tradition chinoise, les jumelles reçoivent leur prénom définitif 100 jours après leur arrivée au monde. Prénom dévoilé lors d'une cérémonie au zoo de Beauval en présence du champion du monde Kylian Mbappé.
J'invite Kylian Mbappé à dévoiler le nom de Petite Neige.
Juan Doudou.
Et je vais demander à Chang Jiachi et Madame Yu de bien vouloir dévoiler le nom de Fleur de coton, Juan Lili.
Les prénoms ont été choisis par les internautes via un vote sur le site du zoo de Beauval. Les deux bébés pandas qui ressemblent encore à de grosses peluches étaient présents, un peu endormis. Juan Lili et Yuan Doudou pèsent 5 kilos chacune. À l'âge adulte, les pandas pèseront jusqu'à 100 kilos. Et si vous souhaitez découvrir leur petite bouille, il faudra vous rendre au zoo de Beauval à partir du 11 décembre prochain.
C'est donc dans le Loir-et-Cher. Merci Yasmina. Les bébés pandas sont baptisés et le Beaujolais nouveau est arrivé comme chaque troisième jeudi de novembre. Vous l'avez peut-être déjà dégusté à cette heure-ci, à consommer bien sûr avec modération. La météo pour ce vendredi, Marlène Duret. Demain, le beau temps finira par l'emporter sur une grande partie du pays.
Oui Alexandre, on va commencer par le beau temps. Le soleil va s'imposer dès les premières heures du jour sur les massifs des Vosges et du Jura, dans les Pyrénées, les Alpes, ainsi que du sud du massif central au pourtour méditerranéen. Ailleurs, eh bien, on se réveillera plutôt sous un ciel bien nuageux ou brumeux, avec une amélioration à partir de la mi-journée puisque la grisaille va commencer à se dissiper pour laisser place à un temps bien ensoleillé, bien lumineux. Alors ça va concerner la Nouvelle-Aquitaine, toute l'Occitanie, même si quelques plaques de grisaille peuvent résister le long de la Garonne. L'Auvergne-Rhône-Alpes est aussi concernée, avec une exception pour le Val-de-Saône vers la région lyonnaise où la grisaille risque de persister. Et puis un soleil peut-être un petit peu moins généreux mais de belles éclaircies tout de même à attendre depuis la Bretagne jusque dans les Pays de la Loire, une partie du centre et de la Bourgogne, donc vraiment au sud de la Loire. Au nord, en revanche, le ciel va rester bien nuageux puisqu'on a un front qui circule et qui est sans activité, donc simplement des nuages et pas de pluie. Du côté des températures, les maximales bougent guère. Nous aurons 7 degrés du côté de Belfort, 8 en Alsace, 11 en Auvergne, 12 à Laval ainsi qu'à Paris, 14 degrés à Orange, 18 à La Ciotat, jusqu'à 20 du côté d'Ajaccio, et une arrivée d'air froid est prévue pour la semaine prochaine, mais uniquement dans le nord du pays.
On n'en est pas encore là. Merci Marlène. Nouveau point météo avec vous à minuit sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant. C'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente Top à Wall Street. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
Top à Wall Street avec Claire Lemaître. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com. Claire, la séance a été mitigée à Wall Street. Les marchés hésitent entre crainte de l'inflation d'un côté et bonne nouvelle du côté des entreprises de l'autre.
Voilà, et les indices terminent donc dans le désordre. Le Dow Jones perd 0,18%, 35 871 points. Le Nasdaq s'en sort mieux avec une hausse de 0,45%. Le Nasdaq qui profite notamment de l'envolée de Nvidia. Le fabricant de puces a publié des comptes et des prévisions précision impressionnant. Il dit aussi s'être organisé pour ne pas subir de problèmes d'approvisionnement malgré la pénurie mondiale de composants, annonce qui rassure beaucoup, et l'action grimpe donc de 8,2%. C'est du vert aussi pour Apple, plus 2,9%. Apple qui profite de rumeurs. Selon l'agence Bloomberg, le groupe accélère dans le développement de sa voiture électrique. On a des déceptions tout de même ce soir avec Cisco qui perd 5,5%. Après ces résultats, les prévisions sont jugées trop justes. Enfin, Alibaba, le géant chinois du e-commerce, chute de 11% après ses comptes.
Les géants américains de la distribution, eux, font des étincelles après leurs résultats financiers.
Oui, des résultats applaudis pour l'enseigne Macy's. Le titre s'envole de plus de 20%. Macy's a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Kohl's aussi devrait faire mieux que prévu du côté des ventes et le titre grimpe de 10% ce soir. Du côté des devises, l'euro reprend 0,45% et s'échange contre 1,1370 $. Le pétrole, qui avait chuté hier de 3%, remonte la pente. Le cours du baril WTI avance de 1% au-dessus de $79.
À Paris, le CAC 40 met fin à sa longue série de records. Il clôture en légère baisse.
Avec un repli limité de 0,2%, 7 141 points pour le CAC. La nouvelle belle performance du luxe n'a pas suffi au marché avec Hermès qui bat un nouveau record à plus de 1 590 €. Le groupe a gagné jusqu'à 7% pendant la séance grâce à des rumeurs d'entrée sur l'Eurostox 50 des plus grosses entreprises de la zone euro. Nouveau record aussi ce soir pour LVMH et pour L'Oréal. Et du côté des baisses, Vallourec chute de près de 15%. Le groupe parapétrolier a revu en baisse ses prévisions annuelles. Les marchés marquent une pause ce soir en Europe avec un repli de 0,2% pour Francfort et de 0,5% pour Londres. Amsterdam perd 0,3%, Milan moins 0,6%, Madrid moins 1% et à Paris, le CAC 40 recule de 0,2%, 7 141 points ce soir.
Merci Claire.
La Caisse d'épargne vous présente l'invité éco. Caisse d'épargne, vous être utile.
C'est aujourd'hui le Duo Day. Une entreprise, une association accueille une personne en situation de handicap en duo avec un collaborateur volontaire. On en parle ce soir avec deux invités sur Europe 1. Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, et son binôme Romain Daillet. Ils répondent tous deux à Emmanuel Duteil. Bonsoir Sophie Cluzel.
Bonsoir.
Et bonsoir Romain Daillet.
Bonsoir.
Un grand merci à vous deux d'être avec nous ce soir sur Europe 1. On est très heureux de vous recevoir parce qu'aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle le Duo Day. C'est une journée assez extraordinaire où on peut avoir avec nous quelqu'un qui est victime de handicap pour partager la journée. Romain, vous avez eu particulièrement de la chance parce que vous avez participé à la journée d'une ministre, donc en l'occurrence la ministre en charge du handicap. Tout simplement, Romain, vous en retirez quoi de cette journée auprès de Sophie Cluzel ?
Alors, déjà, je remercie de l'adaptation pour venir jusque-là, jusqu'à Paris. Ça permet aussi à la fois de rentrer en lien avec elle, plein d'autres choses.
Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ? Parce que c'est quand même pas rien quand on est dans les pas d'une ministre de la République.
Disons que pour moi, c'est Nobel.
Pourquoi ?
Ils m'ont accepté... de m'absenter pendant ces jours pour monter ici à Paris, pour la revoir bien sûr, parce que mon travail en fait a été primé par un prix de l'Hematère il n'y a pas si longtemps. Et donc du coup, on a fait en sorte d'avoir fait une œuvre collective où laquelle on a mis de la vaisselle cassée en matériaux qui sont assez brut, ou lequel on se demande la question d'où vient l'œuf ou de la poule. Donc, du coup, elle a été primée pour avoir le prix de J'aime ma terre par Madame Sophie Cluzel.
Vous travaillez depuis 17 ans à l'établissement et service d'aide par le travail de la ferme de Chosal, c'est en Haute-Savoie. Cette journée, elle est importante aussi pour mettre en avant tous ceux qui sont comme vous, qui réussissent à travailler et pour montrer que c'est possible et que surtout, vous êtes bien plus utile que la plupart des gens qui n'ont pas de handicap. C'est ça aussi que vous voulez mettre en avant, Romain ?
Oui, je voulais mettre aussi en avant, bien sûr, parce que moi, dans mon équipe de travail de cette ferme, c'est bien sûr, à la fois je suis ambassadeur de chez eux, et aussi de plein de choses pour essayer de communiquer et ceux qui sont à la fois de Paris au niveau ministériel et aussi à la fois pour avoir des nombres exacts dans le cas de personnes qui sont handicapées, pas que mentales, mais aussi d'autres handicapés à la fois, moi je dirais, assez physiques, mais pas autant qu'ici à Paris que chez moi en Haute-Savoie.
Et vous avez cette envie de montrer qu'on peut travailler en étant victime d'un handicap, parce que dans votre métier à la ferme, c'est notamment de vous occuper de l'accueil des groupes, et c'est extrêmement important pour vous, cette visibilité ?
Oui, tout à fait, oui. Bah, en fait, j'accueille tout type de personnes, je veux dire, en tant que... comme les écoliers, comme jusqu'à ceux qui préparent les bacs, même jusqu'au collège lycée. Et donc, du coup, ça va permettre aussi d'aller plus en avant, d'accueillir aussi des aides-soignants, comme d'autres de l'agglomération de la Haute-Savoie de Annecy.
Et bien, la prochaine fois, si ça vous intéresse, Romain, c'est avec les équipes d'Europe 1, si vous voulez que vous venez passer l'année prochaine votre duo des Sophie Cluzel, merci d'être également avec nous. Je rappelle que vous êtes la secrétaire d'État en charge du handicap. Cette opération qu'on appelle le duo des vous tient à cœur. Malheureusement, on fait ça une fois par an et on oublie après ?
Non, pas du tout, on n'oublie pas. Le DOD, c'est une journée de rencontre, mais derrière, il se passe beaucoup de choses. L'année dernière, pour vous donner un exemple, 10% des duos ont abouti à une insertion professionnelle. Donc, c'est une vraie rencontre qui permet de faire tomber les préjugés, de parler du handicap, de libérer la parole. Moi, ce qui m'importe, c'est que les personnes handicapées puissent pousser la porte des employeurs, qu'ils soient privés ou publics. Et je tiens à saluer l'engagement des employeurs parce que ça progresse, parce que l'État...
On a l'impression que ça bouge un tout petit peu.
Non, ça bouge beaucoup. Moi, je dis vraiment qu'il n'y a aucun employeur malveillant, que si on n'est pas encore au taux de 6% partout, c'est parce qu'ils se sentent démunis et on est là pour ça, pour les accompagner. Accompagner l'employabilité des personnes handicapées, mais aussi accompagner les employeurs. Et c'est ce qu'on fait avec beaucoup de dispositifs. Je tiens à signaler que l'aide à l'emploi produit ses fruits. Nous avons 25 000 contrats signés, 70% d'entre eux sont en CDI. Nous avons vraiment l'apprentissage des personnes handicapées qui progresse, puisque nous avons 70% de plus de contrats d'apprentis. Alors, bien sûr qu'il faut encore ouvrir massivement la porte des employeurs, mais il faut vraiment les accompagner. C'est pour ça qu'on a beaucoup de dispositifs, il faut les faire savoir et je remercie.
Mais est-ce qu'en ce moment, plus que jamais, est-ce qu'on n'arrête pas de parler de pénurie de main-d'œuvre ? Il y a plein de personnes encore aujourd'hui victimes de handicap qui ne trouvent pas d'emploi. Le taux de chômage reste malheureusement beaucoup plus élevé pour les personnes en situation de handicap. Bon sang, on peut tous faire quelque chose.
Exactement. Et c'est pour ça que j'ai dit, nul n'est inemployable quand il est bien accompagné. Osez vraiment l'emploi inclusif. Et c'est le moment ou jamais. Vous avez raison. Il y a presque 1 million d'offres d'emploi. Il y a une baisse du chômage, certes, mais il y a encore plus de 480 000 personnes handicapées qui sont au chômage. Il faut les accompagner. Bien accompagner, ce sont des talents dont on se prive. Alors je dis tout simplement aux employeurs, allez-y. Parce que là, vous avez vraiment un vivier de personnes motivées, totalement motivés, qui ont envie d'être utiles, parce que c'est ça ce que nous réclament les personnes en situation de handicap, être utiles par le travail. Et nous, derrière, nous sommes là pour les accompagner.
Qu'est-ce que vous retirez, vous, de votre journée avec Romain ? Je suis sûr qu'à un moment dans cette journée, il vous a dit « Mais à quoi ça sert ce que vous faites là ? Pourquoi vous faites ci ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi votre téléphone sonne tant ? » Qu'est-ce que vous en retirez ?
Romain était quelqu'un vraiment absolument incroyable, parce qu'il a une capacité d'adaptation remarquable. Romain, il assimile beaucoup de choses. Il nous le redit et nous le répercute avec beaucoup d'aplomb et beaucoup de bon sens. Romain est quelqu'un de très engagé, très professionnel dans sa ferme de Chozal. C'est pour ça que nous nous sommes connus. Je lui ai remis un prix, J'aime ma terre, avec qui nous travaillons avec la mutualité agricole. Ce sont des leviers vraiment de performance. C'est des actes qui sont ouverts vers le milieu ordinaire. C'est une ferme pédagogique qui reçoit énormément de personnes. Et Romain, il nous a vraiment fait comprendre au Premier ministre et à l'ensemble des ministres, puisque nous avons passé un déjeuner avec l'ensemble des ministres et leur duo, il nous a fait comprendre que tout simplement son métier avait une vraie valeur et qu'il avait une vraie performance dans son métier. Ce sont des atouts pour les entreprises.
Ce sont des atouts et ce sont des ambassadeurs pour mettre en avant cette très jolie cause à l'occasion aujourd'hui de ce duo. Un grand merci à vous deux. Je vous remercie beaucoup Romain Daillet, je vous souhaite un bon retour en Haute-Savoie. Un grand merci également à vous, Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve lundi, 22h20.
Et merci à vous Emmanuel, on vous retrouve également demain avec Elisabeth Assayac de 13h à 14h pour La France Bouge. À un peu plus d'un mois de Noël et des grands départs de fin d'année, votre invitée sera Anne Pruvot, directrice générale de e-voyageurs à la SNCF.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Un rapide coup d'œil sur les unes de la presse demain matin. Bientôt 2 ans de Covid, ça commence à faire long. Covid, une si longue parenthèse, titre Lacroix. Les nouvelles contaminations, on vous en parle, dépassent 20 000 cas par jour. Chacun va donc devoir encore composer avec les contraintes liées au Covid. Est-ce lié à une baisse récente d'Éric Zemmour dans les sondages? En tout cas pour le Figaro, la droite recommence à croire à ses chances pour la présidentielle. Selon un sondage Odoxa pour le Figaro, 75% des sympathisants LR estiment que le candidat investi à l'issue du congrès pourrait remporter l'élection. Enfin, les animaux sauvages dans les cirques et les parcs aquatiques, c'est fini, se réjouit Ouest France. Une loi contre la maltraitance animale va donc interdire les animaux sauvages dans les cirques itinérants, ce sera d'ici à 7 ans, et dans les delphinariums d'ici à 5 ans. 22h31 sur Europe 1. Olivier Delacroix est avec vous. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
De bonnes nouvelles pour vous Olivier, des auditeurs fidèles et de plus en plus nombreux.
Et de plus en plus nombreux, mais pour vous aussi mon cher.
Mais bien sûr.
Hein, donc nous sommes contents.
Nous marchons main dans la main.
Nous sommes heureux, c'est très bien. Et je repensais à ce que vous disiez pour les animaux dans les parcs aquatiques, c'est une très bonne nouvelle quand même.
C'est une très bonne avancée.
Ouais, ouais. Alors dommage que ça ne soit pas pour le monde entier. Parce que je pense à ces pauvres dauphins que j'avais vus un jour... dans une grande piscine, et je me disais la vie entière là,
à
nager avec des touristes, enfin c'était d'une tristesse. Mais bon, déjà, pour la France, c'est déjà bien.
C'est bientôt terminé.
Donc Aqualand, tout ça, c'est terminé.
D'ici à 5 ans, dans les 5 prochaines années.
D'accord. Bon, il va falloir chercher du boulot chez Aqualand. Très bien, on vous retrouve à 23h pour votre flash.
À tout à l'heure,
à tout
Olivier.
À l'heure.